19, le magazine. Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Première triade de paroles d'écriture. Trois émissions, trois invités, et ce premier thème, décadence et renaissance. Vendredi dernier, 24 mars, nous avons accueilli Agnès Besson, chargée de cours en philosophie et anthropologie à l'Université de Nice, qui nous a longuement parlé, qui a analysé de façon fort claire et concise le livre de Michel Onfray, Décadence, qui a beaucoup fait parler de lui en début d'année. Ce soir, mercredi 29 mars, nous allons accueillir quelqu'un de très différent, Michaël Las, maire de Corrence dans le Var, première ville bio en France. 18 ans comme maire, reconnu et apprécié de tous, à Corrence certes, mais aussi dans le Var, dans la région, en France et aussi dans le monde. Un homme responsable, audacieux, visionnaire, humaniste, c'est lui que nous allons accueillir, avec lequel nous allons passer l'émission, une grande partie de l'émission, écoutons-le. Bonjour Michaël, bonjour. Merci de votre présence dans cette émission. Votre parcours, vos responsabilités, votre reconnaissance dans la région PACA et au-delà fait de vous un témoin privilégié pour échanger sur ce thème. Décadence, décomposition, disparition d'un monde, renaissance au pluriel et ça et là d'un nouveau monde. Quelle est votre lecture, Michaël ?
Ma lecture aujourd'hui de notre monde, c'est que je pense profondément que nous collectivement, nous ne sommes pas armés pour comprendre et maîtriser la vitesse à laquelle va le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que l'homme qui est né il y a l'Homo sapiens qui est né il y a plusieurs dizaines de milliers d'années a été pendant la très très grande majorité un chasseur, un cueilleur et la deuxième révolution a été la révolution de l'agriculture où là où il a commencé à se sociabiliser à écrire etc. Et ça c'est pas si vieux que ça, ça date de 5000 ans. Et puis aujourd'hui, l'impression, tout ce qui est lié à l'informatique, à la connaissance, à la nouvelle technologie, ça passe 100 ans. Et maintenant, l'homme est capable de rentrer dans la vie, de la transformer, de faire des choses tout à fait extraordinaires. Un grand artiste que récemment on lui a demandé de peindre, de faire une œuvre qui illustrait ce qu'était l'homme moderne. Et il a payé 30 000 dollars à un laboratoire pour rendre un lapin fluorescent parce qu'on a réussi à lui injecter un gène de ver luisant. Et l'homme devient Dieu alors qu'il n'a pas le cerveau pour l'être, il n'a pas la conscience de ce qu'il est en train de devenir. Et je suis très inquiet parce que très inquiet. Je pense que aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble sur comprendre que nous sommes rentrés dans une ère complètement différente, qui est probablement une révolution encore plus importante que celle du moment où l'homme est passé du stade cueilleur, chasseur à agriculteur, à un moment où sa position sur notre planète fait qu'on transforme les choses et qu'on est devenu l'élément le plus perturbateur de cette planète. Et cette culture, cette compréhension de ce que nous sommes aujourd'hui cette n'est pas assez répandue, et les intellectuels, à mon avis, ont un rôle important à jouer à ce niveau-là, parce que on est objectivement, on est dans une situation, on est dans un tournant où, pour la première fois de l'humanité, l'homme, il y a quelques années, pouvait faire disparaître l'humanité par le nucléaire, mais aujourd'hui, il peut faire disparaître l'humanité par son comportement individuel. Et ça va aller très très vite quand on pense que dans les 25 ou 30 ans, on peut faire disparaître tous les autres primates, que malgré la COP21 et toutes les mesures qu'on prend, on voit que l'inertie de notre modèle va prendre des dizaines et dizaines d'années, des centaines d'années à réparer ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, c'est que quelques dizaines d'années derrière nous. Je pense qu'on n'est pas tous conscients qu'il y a quelque chose de fondamental qui est en train d'arriver.
Alors, ce quelque chose de fondamental, Michael, vous le percevez à la fois par votre démarche d'humanisme, d'ouverture au monde, et en même temps, comme chef d'entreprise et comme maire d'une commune qui est le seul village bio en France. Donc, vous avez 4 mandats de suite. Donc, vous avez une lecture quotidienne absolument extraordinaire.
Oui. Alors, ce qui me rend optimiste, c'est que Coran s'est passé en agriculture bio il y a 20 ans. Et tout le monde trouve ça extraordinaire. Il y a 20 ans, quand on est passé en bio, j'étais convoqué par le président de la Chambre d'agriculture en disant que je menais mon village à la ruine. Aujourd'hui, tout le monde regarde ça avec un œil très beau. J'ai fait partie la semaine dernière, il y a 15 jours, j'étais à Nuremberg et on a créé l'association des villes bio européennes avec Copenhague, Nuremberg, Düsseldorf, Turin, Milan et Corrèze. Donc c'est exaltant parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de gens qui quand même se rendent compte qu'il faut aller très vite dans ce développement. Mais ce qui m'intéresse dans ce qu'on a fait à Corrèze, c'est que je me rends compte que des paysans bio, collectivement, font ce choix qui aujourd'hui semble naturel, qui il y a 20 ans, je considère qu'il était un peu révolutionnaire, surtout sur une grande surface comme ça, décident ensemble d'y aller, malgré qu'ils soient la risée de beaucoup de monde. Et je m'en rends compte que le changement de comportement de ces paysans, leur jeunesse, leur foi dans l'avenir, parce qu'ils ont compris que leur métier avait pour mission essentielle de nourrir sainement la population actuelle, mais surtout de faire en sorte que quand ils ne seront plus là, l'espace dans lequel ils auront œuvré est au moins aussi propre qu'au moment où ils l'ont trouvé. Il sera peut-être plus propre. Mais ces gens-là ont un impact sur la société. Et il y a une dynamique qui se fait, qui dépasse largement le monde agricole dans lequel il est. Et il y a une dynamique sociétale qui se fait. Et je me dis que les révolutions à venir sont des révolutions qui vont se passer par le comportement individuel ou global d'entreprise qui par leur action vont amener le changement des sociétés. Je crois beaucoup plus dans l'avenir je pense qu'il n'y a pas un avenir, mais qu'il y a des avenirs durables. Et j'emploie ce mot à dessein, des avenirs durables. C'est-à-dire que on était dans un système de pensée le christianisme donnait un avenir après la vie, après le libéralisme donnait un avenir parce que le marché avait une main connue qui faisait bien les choses, le communisme devait, et c'était chaque fois un avenir. Et je pense aujourd'hui que il n'y a pas un avenir, il y a des avenirs, parce qu'il y aura des milliers de chemins vertueux, parce qu'à un moment ou un autre, ce sont les gens en bas qui prendront leur avenir en main. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des chemins différents. Et ça, ce qui est exaltant parce que la nature est un exemple de biodiversité et je pense que la vie de l'homme s'est homogénéisée d'une façon tout à fait extraordinaire avec la mondialisation et qu'il est temps d'avoir des biodiversités de comportement et de réflexion sur l'avenir.
Michael, si je vous entends bien, à partir de votre expérience, je note plusieurs choses. D'abord, il y a eu un temps nécessaire. Il y a 20 ans que ça s'est fait. Mais il y a eu un temps pour concrétiser, incarner ce projet, qui n'est pas un programme, j'insiste, qui est un projet. Donc un temps long. La deuxième chose, il y a eu un guide constant. Ça a été vous. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça a été vous. Et ce n'est pas rien, parce qu'un guide ne ressemble pas à un autre. Chaque guide est particulier. Il y a eu une troisième chose. C'est cette vision de la pluralité des avenirs qui est très intéressante. En disant, nous, dans notre village, nous pouvons inventer une contribution originale à ces avenirs. Et puis enfin, il y a ce que vous constatez, une extension. À un moment donné, l'évolution évolue par grappes. Les gens se retrouvent et constituent des grappes de raisins, si je puis dire, dans lesquelles ils se reconnaissent pour dire « nous appartenons au même avenir que nous sommes en train d'inventer ». Et ça, vous pensez que dans cette perspective-là, il y a plein de possibilités, il y a plein d'avenirs possibles ?
Oui. Ouais. Dans ce que vous venez de dire, je me méfie beaucoup de la personnalisation des actions. Alors, on dit toujours que... Moi, je dis, à un moment, il faut un catalyseur ou il faut quelqu'un qui cristallise les choses. Mais la réussite d'une expérience, pour moi, la caractéristique de la réussite d'une expérience, c'est qu'elle est capable de se poursuivre, de survivre pendant longtemps après la personne qui l'a cristallisée. Ça, pour moi, je m'emploie beaucoup... à transmettre, à éviter d'être le point pivot, à éviter de faire les choses à la place des autres, etc. Bon, j'aime bien faire les choses et offrir le cadre à ça. Mais je pense qu'on est, il faut qu'on apprenne à être de moins en moins dans une république où on attend les choses de l'homme providentiel. Dans le monde politique aujourd'hui, il m'est insupportable de penser qu'un président de la République est plus intelligent que 577 députés. Il m'est insupportable en tant que maire d'aller voir le président du conseil départemental et qui me dit à un moment de manière très docte, j'ai décidé de te donner 100 000 euros, 200 000 euros de subvention. C'est une façon mauvaise de voir le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui, c'est la capacité de faire bosser les gens ensemble et de qu'ils produisent ensemble leur avenir. Et l'homme providentiel, c'est vrai peut-être dans les livres anciens, mais ce n'est plus l'histoire moderne.
Non, alors, cet commentaire sur l'homme providentiel, je le partage personnellement complètement, mais dans mon idée, le guide, c'était celui qui produisait de la collégialité, voilà. Donc qui était l'opposé de l'homme providentiel.
D'accord, alors on est d'accord.
D'accord. Et alors, plus largement, au-delà du village, quand vous regardez ces évolutions du monde, ce que écrivent un certain nombre de gens comme Michel Auffray et d'autres, en l'occurrence, sur les menaces du monde, sur la disparition éventuelle de la civilisation judéo-chrétienne, sur l'irruption de l'islam qui fait peur à certains, sur la Silicon Valley qui nous propose un transhumanisme comme si on était incapable d'inventer un méta-humanisme pour assurer notre avenir. Comment vous réagissez ?
Alors, vous avez cité Onfray, évidemment, qui est un penseur important. Je sors d'un livre qui m'a beaucoup fait réfléchir sur plein de choses, qui s'appelle Sapiens, qui a été écrit par un professeur d'université en Israël et qui ouvre un peu les yeux justement sur, d'une part, l'histoire de l'humanité. ça s'appelle Une brève histoire de l'humanité, mais qui ouvre aussi les yeux sur toutes ces problématiques de il démonte les idéologies, il démonte très bien les comportements collectifs qu'on a et le monde vers où on va. Et c'est un livre que je conseille beaucoup à tout le monde de lire, Sapiens. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui visiblement portera, à mon avis, autre. C'est une autre façon d'exprimer la décadence que Onfray fait. C'est bien de lire autre chose qu'Onfray, parce que pour ces 10 dernières années, tout le monde lit Onfray tout le temps et on pense plus que par Onfray. Et je pense que la biodiversité des pensées est très utile en France aussi. Pour revenir, je pense profondément que nous sommes dans une situation où chacun d'entre nous a une responsabilité par rapport à l'avenir et qu'il faut qu'on se réapproprie cette action de responsabilité et que on délègue plus cette responsabilité. Notre démocratie est très malade aujourd'hui. Il n'y a pas en France 40% de fachos qui votent Front National. C'est les gens qui disent ça pour moi. Mais il y a dans ces 40%, plus tous les abstentions, des gens qui se reconnaissent plus dans le système. Que fait-on aujourd'hui pour repenser la démocratie? Que fait-on aujourd'hui pour penser différemment la manière de gouverner? Bon, les Grecs ont inventé la démocratie avec cette perfection, la Révolution française et la Révolution américaine l'ont améliorée. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 siècles pour changer le comportement des gens? Et Ségolène Royal, il y a une dizaine d'années, avait lancé l'histoire de la démocratie participative. Ça a été assez gossé et galvaudé. Mais objectivement, aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit dans les pays sociaux-démocrates, que ce soit aux États-Unis, on voit bien que le système est au bout. Et on ne comprend pas beaucoup. Et que font les intellectuels aujourd'hui pour nous dire pourquoi ça ne fonctionne pas et comment il faudrait que ça fonctionne? Et moi, je lance un appel à la recherche là-dessus. Et à la recherche pratique, c'est-à-dire que on expérimente, on essaie d'inventer d'autres façons de pratiquer le pouvoir collectif, parce que c'est l'une de mes grandes inquiétudes dans l'avenir.
Voilà, c'est la première partie de l'entretien avec Michael. Nous allons poursuivre après les informations et nous reviendrons en particulier de façon assez approfondie sur le livre de Sapiens, qui est certainement l'un des ouvrages les plus remarquables, qui a été édité pour la première fois en Israël en 2011, qui est diffusé dans 30 pays, qui a été traduit en anglais il y a peu de temps et en France en février dernier. Nous reviendrons cela dans la deuxième partie. Écoutez les informations et on se retrouve ensuite. Première triade de paroles d'écriture sur le thème décadence et renaissance. Pour cette deuxième émission, Michael, là, c'est notre invité. Continuons de l'écouter. Alors, Michael, dans cette perspective, comme maire, dans vos 4 mandats, qu'avez-vous vu comme questions nouvelles et troublantes qui surgissent? Et en même temps, que voyez-vous apparaître comme élément de renaissance?
Alors, ma vie comme maire, ce qui me paraît en 20 ans, c'est la manière dont les gens espèrent que l'homme providentiel maire va résoudre leurs problèmes. Et ça m'apparaît beaucoup plus maintenant qu'il y a 20 ans. Et je me sens profondément démuni. Et parce que aujourd'hui, on est dans un système de gens qui sont dans des situations difficiles qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Ça, c'est indéniable. On a, et en tant qu'homme, c'est très éprouvant. En tant que mère, ce qui m'intéresse et qui m'a beaucoup fait bouger, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la capacité qu'on a eue de tricoter d'une manière très pragmatique un petit modèle. Alors c'est tout petit, je reconnais que c'est pas étendable, mais un petit modèle où économiquement les choses fonctionnent bien, où visiblement cette économie respecte la nature, respecte l'environnement, et où la culture, parce que la commune de Corrence a énormément investi dans la culture depuis 20 ans. On a le Centre National des Nouvelles Musiques Traditionnelles avec des résidences régulières tout le temps, donc il y a des concerts tout le temps, il y a tout le temps des artistes. Alors en musique traditionnelle, mais une musique traditionnelle un peu ouverte sur le monde actuel, avec un certain nombre d'artistes. Et ça, pour moi, c'est un élément important, c'est-à-dire que l'ouverture du cerveau des gens est un élément qui les rend plus tolérants, qui leur permet de beaucoup mieux appréhender globalement la société et qui met les gens en marche. Et pour moi, c'est des grandes leçons, ça. C'est d'une part le pragmatisme, il ne faut pas rêver. Moi, j'ai toujours refusé de dire il faut que tout le monde mange bio, il faut que tout le monde soit écolo, etc. Non, il faut que les éléments essentiels de la vie s'accordent de plus en plus avec un certain nombre d'axiomes du développement durable. Mais il ne faut pas être intégriste parce qu'on se rejette la société. Il faut à tout prix investir dans la culture, la formation, l'investissement des gens, parce que ça ouvre les gens. Il faut travailler, ce que je disais tout à l'heure, à la démocratie, à comment faire. J'ai participé au lancement d'un agenda 21 qui est un élément de démocratie participative à Corrence, à laquelle je refuse que le pouvoir de la commune participe parce que je veux en assurer l'indépendance. On n'est pas toujours d'accord, mais du désaccord naît des idées. Et disons que cette micro-société montre qu'il y a des choses intéressantes qui se font. Alors il faut pas prendre du copier-coller, mais j'organise dans les mois qui viennent ce que j'appellerai les entretiens de Corrence, parce que je souhaite vraiment que en invitant une centaine de personnes à écouter divers modèles de développement durable, je souhaite vraiment qu'on comprenne quel est le fil rouge ou le fil vert qui fait que on a des expériences en France, en Europe, dans des entreprises, dans des collectivités territoriales qui fonctionnent bien, mais surtout qu'on essaie de comprendre pourquoi des choses qui semblent tellement évidentes ne se développent pas plus vite. Et quelles sont les forces occultes? Et moi, je pense pas que ce sont des forces occultes. Quelles sont les forces dans la tête de chacun qui fait que des choses qui sont... Pourquoi dans le midi de la France? Pourquoi l'agriculture biologique se développe pas plus? Bon, des choses très simples. C'est une question simple. Les vignerons de Corrence, ils gagnent aussi bien leur vie que les vignerons d'ailleurs. Pourquoi les autres vignerons ne passent pas en agriculture bio, surtout dans le milieu de la France où c'est tellement simple et évident de faire du bio? Mais ça, c'est des éléments qu'il faut comprendre. Alors, il y a évidemment le grand monopole de Monsanto, de DuPont, etc., qui infantilise les gens. Mais pourquoi notre société n'est pas capable de dire aux paysans, mais attendez, c'est pas des belles tomates qu'il faut que vous nous fassiez, c'est des tomates saines qui vont pas empoisonner les gens. Pourquoi il faut que vous les cultivez de telle façon que dans 3 générations on puisse continuer à cultiver des tomates là et que les terres soient pas stériles. Je veux dire, pourquoi la société ne donne pas cela de mission? C'est tellement simple à dire et à penser et à affecter. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a à vraiment réfléchir à la manière de comprendre pourquoi les choses ne vont pas plus vite.
Vous avez dit, Michael, que dans votre démarche de maire comme guide ouvert et pas comme homme providentiel, vous aviez mis l'accent sur deux choses finalement. Une économie écologique et solidaire, et puis la culture. Alors, vous nous avez parlé aussi des entretiens de Corinth. Pouvez-vous nous préciser, d'abord, quand ont lieu ces entretiens, et deuxièmement, quel est le grand moment musical dans cette culture de votre village?
Alors, les entretiens de Corinth auront lieu cette année le 16 et le 17 mai. C'est le jeudi 16 et le vendredi 17. L'idée fondamentale, c'est de... On va faire venir une dizaine d'entreprises et une dizaine d'entreprises de territoires français et étrangers qui travaillent sur le développement durable depuis plus de 10 ans. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la pérennité des actions. Et on a invité une centaine de gens qui sont des chercheurs. Il y a quelques chercheurs, pas mal de chercheurs. Il y a des agriculteurs, il y a des chefs d'entreprise, il y a des élus locaux. Il y a un peu tout le monde, une centaine, 120 personnes. Et ces gens-là, on va leur demander d'écouter dans une matinée ces 8-9 expériences qui sont... On demande aux gens de présenter pendant 10 minutes un genre de monographie de ce qu'ils ont fait et pendant 10 minutes d'essayer de conceptualiser et d'exprimer la philosophie de leur action. Ça serait bon. Tout le monde parle français parce qu'on a choisi des expériences à l'étranger où les gens sont capables de s'exprimer en français. Et c'est 100 personnes avec des gens spécialisés. On va travailler en intelligence collective l'après-midi et le début de lendemain matin sur essayer de comprendre qu'est-ce qui lie ces gens, ces expériences, pourquoi ça a marché, etc. Et surtout de se poser la question de pourquoi ça se développe pas plus vite, pourquoi ça va pas, quels sont les freins à tout ça. Et ça, bon, j'ai pas la réponse puisque on pose la question par des méthodes d'intelligence collective à chacun. Et là, on a demandé à une philosophe qui est quelqu'un qui travaille à côté de Hulot, qui est conseiller scientifique et philosophique, de nous accompagner pendant cette deuxième journée. Et le lendemain matin, vers 11h, lui, avec sa vision philosophique, il va essayer de nous synthétiser ce qu'il a ressenti et nous le renvoyer, et il y aura un débat autour de ça. L'idée fondamentale pour moi, c'est d'essayer, à notre petite échelle, de contribuer à comprendre pourquoi ces modèles ne se développent pas plus vite.
Ces entretiens auront lieu maintenant tous les ans.
Alors, c'est les premiers entretiens. L'idée fondamentale, c'est que j'espère qu'elles auront lieu tous les ans. Oui.
Et sur le plan de la musique, alors, il y a aussi un grand moment, je crois.
Alors, le week-end de la Pentecôte, qui est le 2 et le 3 juin, il y a ce qu'on appelle les joutes musicales à Corinth, cette année, ils ont un moment particulier, parce que c'est les 20e joutes musicales. Et cette année, qui sont des grandes joutes. L'idée, c'est que vous avez des résidents français, des artistes résidents un peu de l'Europe, de tous les pays de musique traditionnelle, qui viennent créer de la musique aujourd'hui.
Thank you.
Merci, Michaël, pour ce témoignage. 18 ans comme maire. Un triangle, finalement. D'abord, il fait de son village, vous faites de votre village, le premier village bio de France. C'est quand même un projet impressionnant, reconnu maintenant, encore une fois, en France, en Europe et dans le monde. Deuxième élément du triangle, la culture, et en particulier ces joutes musicales absolument extraordinaires auxquelles j'ai assisté l'an dernier, auxquelles je vous encourage d'aller. Puis le troisième pôle du triangle, eh bien, c'est la citoyenneté. Michaël dit, faisant chemin, vous citoyens, vous construisez votre but, mais appropriez-vous votre avenir ainsi. Plus largement, ce que Michaël nous dit, c'est qu'il faut espérer que dans des micro-réalisations, dans des méso-réalisations intermédiaires, beaucoup plus que dans des macro-réalisations peut-être, pour l'instant, des avenirs durables apparaissent, surgissent, ça et là. Cette deuxième idée très forte, il n'y a pas d'homme providentiel, mais des réseaux, des personnes qui en collégialité se mettent en providentialité parce qu'ils croient ce qu'ils font. Puis cette troisième idée, oui, la politique a beaucoup abîmé le politique, mais le politique ressurgira à travers ses réalisations, ses micro-renaissances un peu partout. Alors rappelons ce que Michaël disait pour ces entretiens, qui sont effectivement très importants, qui auront lieu en mai prochain. Si vous êtes intéressé, alors je vous invite à téléphoner au 06 06 98 34 92. Je reprends, 06 06 98 34 92, pour assister à ces entretiens, dont la finalité est de rassembler différents acteurs d'initiatives réussies de développement durable, un peu partout, en Europe surtout, et de s'en inspirer pour favoriser de nouvelles initiatives. Voilà les ambitions des premiers entretiens de Corence qui manifestement vont se poursuivre dans les années à venir. Je vous invite à y aller et dans la note de synthèse qui suivra les trois émissions, je vous mettrai à nouveau toutes les références. Décadence, renaissance, vous voyez que le livre de Michel Onfray est une approche du problème, mais que ce n'est pas le seul. Nous avons déjà parlé dans la première émission de Déclin de l'Occident et puis du travail de Paul Valéry. Nous allons dans un instant parler du livre Sapiens qui mérite quand même un minimum d'attention. Mais avant, si vous voulez, rappelons-nous quand même du chemin parcouru. Tout n'est pas désespérant. Prenons un exemple. L'espérance de vie. En 1740, en France, l'espérance de vie est pour les hommes de 24 ans, 24 ans, et pour les femmes de 26 ans. En 2015, pour les hommes, 79,4 mois, et pour les femmes de 85 ans, 4 mois. Pour aller de Paris à Marseille en 1914, il fallait 10h25. Maintenant, nous en mettons 3h20. Nous pourrions prendre ainsi plein de chiffres positifs sur l'illettrice, le recul relatif mais non négligeable de la pauvreté extrême dans le monde, sur des tolérances nouvelles comme celle de l'homosexualité, sur le fait que la population du monde accède quand même à des conditions de vie un peu meilleures, sinon significativement meilleures, qu'il y avait un siècle et encore plus. Voilà ces éléments, il ne faut pas les oublier. Mais au-delà, ces éléments positifs et ces éléments par ailleurs négatifs, revenons sur ce livre de Sapiens, que je trouve probablement le livre le plus intéressant que j'ai lu depuis plusieurs mois. Sapiens a été écrit en 2011 par un auteur de l'université à Jérusalem, Yuval Noah Harari. Sapiens, et son sous-titre est une brève histoire de l'humanité. Écoutez bien, cet auteur a 41 ans. Le sous-titre, l'histoire a commencé quand les hommes ont inventé les dieux. Elle s'achèvera quand ils deviendront des dieux, mais vous verrez dans un instant que ce n'est pas si simple que cela. Cet auteur a écrit un livre passionnant parce que c'est pour la première fois que j'ai entre les mains un livre où l'historien utilise la biologie, la génétique et la technologie. Il nous brosse une histoire du monde tout à fait passionnante. Alors, généralement, on évite de parler de la fin du livre pour que vous puissiez aller le voir plus encore. Eh bien, je vais vous donner quelques commentaires sur ce livre et je vous dirai un peu la fin pour vous donner le goût de l'acheter. Et puis, si vous ne pouvez pas l'acheter, vous, à titre personnel, quand même un livre assez cher, il vaut 24 euros et il est de 400 pages, mais qui se lit très facilement, bah demandez à votre médiathèque, si elle l'a pas, ou à une instance ad hoc près de chez vous, de l'acheter pour qu'il puisse circuler. Sapiens, édition Albin Michel, qui est paru en France en 2011 et qui est déjà diffusé dans plus de 30 pays. Alors, quelques passages de cet auteur. Nous avons souvent traité le bonheur comme s'il dépendait de facteurs matériels, écrit-il. Mais, bien sûr, il y a la nourriture, l'hygiène, la richesse, et pourtant, le plus souvent, c'est pas ainsi qu'il faut aborder. Il faut aussi traiter la question des attentes. Qu'est-ce que les gens attendent? Pourquoi sont-ils insatisfaits? Ils se posent la question. Et puis, ils posent une autre question redoutable. Le dépassement de nos limites biologiques pourrait représenter la fin de l'Homo sapiens. Et là, l'auteur avance sous une forme importante, impressionnante, où il mélange encore une fois tous les travaux actuels de la technologie, de la biologie sur le cerveau, etc. Qu'est-ce que nous dit l'auteur ? Les êtres humains peuvent manipuler désormais l'ADN, connecter le cerveau humain aux ordinateurs et remplacer les règles de sélection naturelle au point de devenir des dieux eux-mêmes. Ou encore, il nous dit... Le projet ne peut plus être égalitaire dans un monde où le néolibéralisme et le capitalisme sont les rois suprêmes. Écoutez bien, si le XXe siècle a voulu réduire les écarts entre les gens, le XXIe siècle va en créer de nouveaux. Ce qui me préoccupe, dit l'auteur, c'est que nous sommes potentiellement confrontés à la plus grande révolution, non seulement dans l'histoire mais en biologie, et les gens laissent tout simplement les forces au marché à déterminer quoi en faire. C'est assez impressionnant. Et il ajoute, c'est une vraie menace, car il y a un scénario qui s'annonce, est-ce que ça ne serait pas une minorité de gens qui bénéficieraient de toutes ces avancées, et qu'est-ce que l'on ferait des autres? Quelles sont les nouvelles inégalités qui vont surgir au cours de ce 21e siècle? Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous vendredi avec un entretien avec Denis Priant et nous terminerons en écoutant Edgar Morin, cette triade, décadence et renaissance.